Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on va débuter cette émission encore une fois par un but de Luis Fernandez. Quel joueur ce Luis ! Donc, bienvenue dans votre magazine L'Instant Sport. Oui, votre magazine qui parle du sport local pendant une heure. Pour en débattre et commenter les résultats du week-end autour de cette table, il aurait pu avoir une carrière de Chippendales, mais finalement, il a choisi d'animer les ondes de 48 FM. C'est votre chouchou, Ludovic Terrol. Bonjour.
Salut Laurent. C'est pour mon physique que tu dis ça.
Bien sûr. Ouais. Il est agile comme Tony Parker pour écrire ses lignes dans le Midi Libre. C'est Luc Crespon. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Agile. C'est pas ce qui caractérise le plus Luc, mais on laisse.
Il a rêvé toute la nuit de mettre le même but que Gignac contre Bordeaux. Votre correspondant sport à la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone. Bonjour.
C'est vrai que je suis un adepte du coup de boulon, donc bonjour à toutes et à tous.
Il a surtout la même glacière que Marcelo Bielsa.
C'est vrai que ça devient un objet culte et les enchères remontent sur Internet.
Comme chaque semaine, nous recevons dans nos locaux un invité qui représente son sport. Aujourd'hui, dans le studio 109, nous avons le plaisir d'accueillir le MGC Handball, représenté par les seniors garçons, par Maxime André. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et enfin, une touche féminine au milieu de ces hommes, à la présence de la capitaine des seniors filles, mademoiselle Marie Almeraz. Bonjour.
Bonjour à tous.
Enfin, une invitée féminine.
Enfin, ça sent le parfum dans le studio, c'est génial.
Dans le vestiaire, t'as failli dire. Beau
l'air. C'est un peu un vestiaire.
Un petit révélateur, mais...
Donc aujourd'hui, des fortunes diverses pour le MGC, avec une défaite à domicile pour les garçons contre le leader Voiron, et un match nul des filles à Bouillargues, mais nous y reviendrons. Donc on va attaquer l'actualité par le football lausérien, qui est en bonne santé ce week-end, avec les victoires de l'AFL, de l'ENL, de Marvejols et Langogne. Pour commencer avec la victoire de l'AFL contre le leader, la Grande Motte, 3 buts à 1 avec 2 buts de Fadil Gourmand et un but contesté par l'adversaire de Benjamin Almeraz. Patrick, un mot sur ce match, s'il te plaît.
Oui, donc je peux en parler puisque j'ai assisté à cette rencontre. Bon, c'est vrai que la Grande Motte était invaincue, équipe vraiment solide. Alors, la différence par exemple de Paulhan ou de Narbonne ou de ces gros clubs qui ont des individualités, bon, difficile de ressortir vraiment un joueur du lot au niveau de la Grande Motte, mais par contre, un bloc équipe, des consignes bon, vraiment respectées du début à la fin, et vraiment une équipe qui était venue pour s'arracher et qui comptait bien repartir de match nul. Ils avaient fait match nul à Pologne d'ailleurs, donc ils comptaient bien faire de même. Et puis donc l'AFL a eu quand même des difficultés. Mais bon, c'est vrai que par contre, l'AFL peut compter sur des individualités de très haut niveau. Et donc on a vu une première demi-heure vraiment très équilibrée, et puis bon, deux coups de patte de Fadil, et tout d'un coup ça s'éclaire, et donc ça fait basculer la rencontre. Un match de bonne facture, j'ai trouvé, bien joué. Bon, après il y a eu tous ces incidents d'arbitrage, l'arbitre vraiment très très hésitant, un peu hors du coup, il faut le reconnaître. Et bon, voilà, ça a mis de l'animation pour la fin de match.
Luc.
Oui, d'ailleurs, il y a eu deux expulsions hein, dans ce match, on l'a pas précisé. Florent Baudin, qui venait tout juste de rentrer et qui a pris un rouge direct, et un joueur de la Grande Motte, qui était sorti en fait, qui avait été remplacé, qui a pris un carton rouge sur le bord de terrain au moment de l'expulsion.
Ce qui change rien alors.
Non, parce que.
Ce qui change rien, mais il va quand même être suspendu. Voilà. Je crois que c'est en plus l'un de leurs meilleurs attaquants, je crois.
Ouais, c'était le numéro 7. Non, c'était pas Villanueva, c'était le numéro 7. Bon, il joue plus milieu de terrain. Bon, oui, ce qui s'est passé, donc, Florent Baudin est rentré. Bon, il y a peut-être certainement une faute sur lui. L'arbitre la siffle pas. Alors, le ballon, eh ben, il perd un peu le ballon. Il essaie de le récupérer. C'est vrai qu'il met un tacle, sur la ligne de touche, là-bas, à l'opposé des tribunes. Bon, à mon avis, bon, c'est vrai que l'arbitre a pas été brillant pendant tout le match, mais à mon avis, on ne peut pas contester ce carton rouge qui a, pour moi, je dis bien pour moi, est tout à fait logique. Tacle vraiment dangereux, non maîtrisé, par derrière. Je vois pas comment l'arbitre peut faire autrement que de mettre un carton rouge.
Donc Patrick, j'ai vu ton interview du coach adverse qui dit qu'il avait l'impression de maîtriser le match comme chaque fois quand il vient jouer contre l'AFL et finalement qu'il se retrouve toujours mené et perd le match avec des regrets. Est-ce que tu es d'accord avec lui?
Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que chaque fois il met une tactique en place, vraiment être bien regroupé. Bon, donc ils ont l'impression qu'ils peuvent au minimum tirer le nul, voire mieux en exploitant les contre-attaques. Et puis, à chaque fois, il se fait couillonner entre guillemets. Et donc c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc il a eu l'impression pendant une demi-heure de vraiment maîtriser le match. Et puis en deux minutes, deux coups de patte de Fadil, et puis on se retrouve à 2-0. Et après, pour revenir, quand tu perds 2-0 à l'extérieur, surtout à Mende, il sait que c'est compliqué de revenir parce que bon, il y a un public quand même qui pousse, qui déstabilise.
Le stade était plein, ouais.
Ouais. Qui s'est passé. Et donc quand tu vois un arbitre aussi qui est voilà, on sentait que l'arbitre réagissait par rapport à ce que le public pouvait dire. Et donc après, ben voilà, il y a eu 2-3 échauffourées, 2-3 décisions un peu litigieuses, et voilà, c'est ce qui fait qu'on a eu une fin de match un peu un cafouillage.
Ouais, Laurent, donc du coup on peut revenir sur cette fin de match où donc Benjamin Almeiras fait une tête sur la barre, ouais, ça ouais. revient et puis soi-disant, l'arbitre aurait sifflé une faute. Alors ça, ce sont les joueurs de Randemotte qui le disent. Est-ce qu'ils disent que sur leur but aussi, ils ont un petit peu poussé Destin, qui relâche un ballon, etc. Ça, ils ont peut-être oublié un petit peu.
Alors, bon, là aussi, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Bon, à mon avis, je parle vraiment à mon nom propre encore une fois. À mon avis, il n'y a pas faute sur Destin sur le but de la Grande Motte. Ouais, c'est un long ballon aérien. Destin capte le ballon et après en redescendant, à mon avis, il relâche tout simplement le ballon. Alors peut-être qu'il a été légèrement poussé, mais à mon avis, enfin, je trouve pas que ce soit
l'arbitre
scandaleux.
Peut le siffler quand même.
Ouais, voilà, mais
ça nous aura arrangé. Surtout.
Voilà, mais je pense que c'est pas scandaleux que l'arbitre s'y veut pas sur cette action-là. Après, il y a un cafouillage, le ballon revient, il met un tir qui est en plus dévié par un défenseur de Mende, et c'est ce qui fait la réduction du score pour la Grande Motte.
J'ai l'impression que Destin est un peu moins bien cette année. On a vu des erreurs à Paulan de sa part. Là, apparemment, s'il n'y a pas faute, ça serait peut-être une erreur. C'est quoi? C'est son transfert avorté qui le gêne?
Il faudrait lui demander. C'est vrai que, bon... moi, Destin, si je peux me permettre de le juger, bon, c'est compliqué, mais... Moi, je trouve que Destin, il est excellent sur sa ligne. Il est excellent dans les sorties parce qu'il gicle, il va vite. Après, dans les ballons aériens, je trouve que c'est vraiment son point faible. Et c'est souvent sur des ballons comme ça où il est en difficulté, il relâche des fois. Donc, ça lui est arrivé plusieurs fois. Et voilà.
Après, il en sort aussi une paire.
Moi, je dis, contre Carcassonne, il sort un pénalti. Bon, là, il a sorti des coups francs, tout ça, tout. Je le trouve excellent sur sa ligne.
Oui, c'est un excellent gardien, on est d'accord.
Je voulais justement prendre sa défense où, il y a 15 jours de ça, contre Carcassonne, il y a 0-0, il sort un péno. On n'aurait peut-être pas gagné ce match. Et donc, il faut relativiser pour une petite boulette. Alors, moi, j'aurais sifflé faute si j'avais été arbitre. Donc,
le problème d'un gardien, voilà. C'est que dès qu'il fait une boulette, ça se voit de suite.
Mmh. Voilà. Il n'y a plus rien derrière. Quoi que tu n'as pas vu Laurent jouer dans le champ. Il y en a qui se voient.
Après, sur le troisième but de l'AFL, donc le but de Benjamin Almeiras, bon, c'est vrai qu'il met une tête de toute beauté, ça fracasse la barre, je pense qu'elle tremble encore. Et donc le ballon revient, et donc la contestation, elle vient parce qu'en fait, il y a un duel entre Michael de Freitas et un défenseur. Et donc là, les joueurs de la Grande Motte disent que l'arbitre a sifflé faute de Michael de Freitas. Bah, en fait, suite à ce duel, le ballon revient sur Almeiras qui pousse le ballon dans le but vide. Et donc, ils disent qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils sont persuadés que l'arbitre a sifflé faute. Alors là, moi, j'étais placé au bord de la ligne de touche. À aucun moment, j'ai entendu un coup de sifflet de l'arbitre pour dire, alors bon, c'est vrai qu'on n'entend pas tout, mais enfin, j'étais quand même relativement bien placé. Et je vois pas comment ils ont pu entendre un coup de sifflet de l'arbitre à ce moment-là.
Mauvaise foi, c'est Zerolté.
Je pense.
De toute façon, ils ont porté réclamation qui n'a aucune chance d'aboutir pour eux. Donc, le résultat sera entériné. On a la chance aujourd'hui d'avoir dans les studios la petite sœur de Benjamin. Est-ce que tu as vu son super but dans les buts vides?
Oui, un super but, mais bon, je connais mon frère, il aurait pu mettre marqué de la tête. Marqueur, il marque de la tête, donc c'était...
Ouais, mais il a qu'une tête, il a pas de pied, c'est pour ça.
De suite, quoi.
Ok. Donc,
si on peut rajouter un truc par rapport à la réserve technique. Donc c'est vrai qu'ils ont posé réserve technique. Alors bon, après ça va être bien sûr analysé par les instances. Alors pour que le match soit rejoué, il faudrait que l'arbitre dans son rapport dise oui effectivement j'ai sifflé avant, mais bon après je me suis embrouillé, j'ai accordé le but, j'aurais pas dû l'accorder. Si il dit ça, là il y a aucun problème, le match est à rejouer.
C'est pourquoi
il y a 2-1. Voilà, il y a 2-1 Patrick. Voilà. Ça change rien.
Non mais 2-1 justement à 5 minutes de la fin. Tu peux très bien dire que l'équipe peut égaliser dans le temps qui reste. Donc le match serait à rejouer. Mais si l'arbitre fait ça, il faut quand même le dire, parler franchement, il se tire lui-même une balle dans le pied parce que s'il reconnaît qu'il a accordé le but alors qu'il avait sifflé une faute 10 secondes auparavant, ben, sa carrière en DH est totalement terminée et il peut commencer à arbitrer la PHA, la PHB, voire même au-dessous. Donc ça paraît totalement improbable que l'arbitre valide cette thèse. Donc je suis de l'avis de Laurent, le score va être entériné.
Surtout sur ce genre de fait, soit tu reconnais ton erreur de suite, mais tu vas pas reconnaître un net arbitre. Oui, finalement, vous avez raison, un quart d'heure après, j'aurais dû annuler ce but. Si tu reconnais ton erreur de suite, annule le but de suite.
Qu'on contacte Nicolas Rainville pour qu'il nous dise la règle. Qu'est-ce que tu en penses?
Ou Edinson Cavani, apparemment, ils sont super potes.
Donc au classement, l'AFL est 7e avec un match de moins et 3 points de moins que le 2e Perpignan.
C'est qui le match en retard, Patrick?
C'est contre Perpignan, Perpignan-Bavernier. C'est pas le meilleur club de Perpignan, puisque le meilleur club, c'est Perpignan aussi. Donc c'est Perpignan-Bavernier, mais bon, c'est toujours pas fixé, puisque comme la AFL est toujours en course en Coupe de France.
Non, et puis un match, il n'est jamais gagné d'avance. Bon, on ne va pas dire qu'on est virtuellement deuxième, même si on le pense.
Exactement.
Voilà. Très fort. On le pense très fort.
Il reviendra un point du.
C'est ça.
C'est surtout ça. C'est que le premier ou le premier et le second qui
Il n'y a que le premier.
Il faut suivre.
C'est un point de retard sur Poland.
J'ai oublié.
Après, il faudra peut-être voir aussi en fin de saison avec Nîmes Olympique si ça peut avoir une incidence aussi sur la suite des événements.
On en parlera, t'inquiète pas.
Sérieusement, si sanctions sportives il doit y avoir sur Nîmes Olympique et que ça entraîne d'éventuelles rétrogradations,
pardon, j'ai lâché. Nantes pourrait monter en national alors. C'est ça.
Non, on va pas aller juste
direct.
Là,
bim.
On échange la place de Ligue 2, c'est ça.
C'est ça, exactement. Okay. Ça pourrait ouvrir une place de plus. Très hypothétique.
Prochain match de l'avenir Foot Lozère est à Corbière le week-end prochain, qui est classé 11e. Après ce week-end, il y aura aussi un tour de Coupe de France. Donc, vous savez tous que l'AFL est qualifié pour le 8e tour. C'est le chouchou de Marie, Matt Pokora, qui a fait un tirage au sort chez.
Ouais, il aurait pu mieux tirer. Hein.
Chez Andrézieux.
C'est bien, mais c'est pas très bien quand même.
Ouais, c'est pas top. Une CFA2. Par chance, c'est une CFA2 mal classée en championnat. Alors, c'est un bon ou un mauvais tirage, Ludo?
Moi. Ludo, ouais. Alors, avant de répondre à ta question, sachez qu'on essaye en ce moment avec Laurent de faire en sorte d'aller commenter le match. Donc,
avec Mpokora.
Voilà. Mais avec Mpokora qui danse à côté de nos commentaires. Voilà. On est en lien avec le club.
Mpokora qui est un grand fan de l'OM.
Oui.
Exact.
Ben oui.
Dont le père est un ancien joueur.
On connaît le niveau intellectuel de Mpokora. Ouais, on essaye d'avoir le président du club pour savoir si c'est possible d'aller commenter. On vous tiendra au courant dans cette émission pour retrouver le match en direct. Sinon, on le fera par téléphone. On le fera quand même. Oui.
Pour dire, Andrézieux est coaché par le frère de Laurent Pradier, qui est donc le président de Badarou.
Donc, l'ex-président de Badarou.
L'ex-président de Badarou.
D'accord.
Oui.
Ah, bah, donc, okay. C'est un tuyau.
C'est un tuyau.
C'est un tuyau. On va l'appeler alors. Voilà. Bon ou mauvais tirage, bon tirage pour moi. Patrick?
Oui, je suis de ton avis. J'en ai discuté samedi avec Gérard Bonnefoy, le président de l'AFL, qui était présent à Aix-en-Provence le jour du tirage. Et quand tu analyses vraiment la poule, c'était à part pour les géographiques, les adversaires potentiels de l'AFL, moi je pense aussi que c'est un bon tirage parce que tu aurais pu très bien aller à Borgo. Alors si tu vas à Borgo pour un 8e tour de Coupe de France, ben, autant te dire qu'il te faut avoir 3 ou 4 classes d'écart pour pouvoir t'imposer avec tout l'exotisme de ces voyages en Corse. Mais bon, Maxime pourra nous en parler parce que il connaît un peu lui. Bon, il est allé à Corté en plus en plein centre de l'île.
Donc, ouais,
il doit avoir des souvenirs vraiment intéressants. Donc voilà, tu aurais pu tomber à Borgo, tu aurais pu aller à Ndoum.
Patrick, nous avec Ludo, on aurait préféré aller commenter à Borgo.
Voilà, ça j'imagine bien. Bon, tu aurais plutôt joué aussi contre Andoum, donc qui est un quartier de Marseille. Bon, là, je connais bien parce que j'ai joué énormément de fois contre eux. Donc, le stade se trouve juste en dessous de la Bonne Mère. Et c'est vrai qu'à certains moments, tu lèves un peu les yeux au ciel pour dire pour vraiment la protection de la Bonne Mère. Parce que là aussi, tout est possible. Tout est possible contre ce genre d'adversaire. Tu aurais pu recevoir Marseille Consola, un club national, qui est aussi un quartier de Marseille. Voilà. Donc, finalement, je suis de ton avis. C'est quand même un bon tirage, parce que bon, même si tu vas à l'extérieur, ça va être l'idéal, ça aurait été de recevoir. Mais à mon avis, c'est un bon tirage.
Ouais, bon tirage. Enfin, faudra voir, parce qu'on n'est jamais, à l'abri. Ça reste une CFA 2. Je sais pas le niveau Rhône-Alpes, s'il est plus élevé que celui Méditerranée, où évoluait Agde, le précédent adversaire de l'AFL. Après, c'est toujours embêtant d'aller à l'extérieur.
Voilà, c'est ça.
On l'a répété, l'importance du public. Amende, là il va y avoir l'importance du public à Andrézieux.
Donc moi je dirais plutôt que c'est un mauvais tirage dans le sens où on est outsider, donc si on passe c'est un exploit évidemment, mais si on perd bon ça sera logique.
Ça sera logique.
Mais perdre contre Andrézieux, il y a rien qui fait rêver quoi. C'est pas perdre contre Le Havre il y a deux ans où tu sors avec les honneurs.
Ouais. Voilà. Et puis paramètre supplémentaire, c'est ce que disait Stéphane la dernière fois, c'est que ce tour de début décembre, c'est grosso modo celui qui ouvre la voie à toutes les possibilités d'accueillir une Ligue 2, une Ligue 1, puisque les Ligue 1 rentrent au tour suivant, voilà. Me semble-t-il.
Alors le tour suivant, il serait, si on passe, le début, 3 ou 4 janvier. Donc, Ludo, si on passe,
parfait.
Tu ne pourras pas faire le réveillon. Donc,
on va enchaîner du réveillon au match non-stop.
Faites le réveillon au stade.
Sinon, fais le réveillon au stade.
Ah, mais c'est pas mal, parce que tu aurais pu jouer une nouvelle fois à Arles-Avignon. Bon. Tu avais déjà connu, tu aurais pu recevoir la Duchère, bon, tu as déjà fait, bon, voilà.
D'ailleurs, pour la petite histoire, les bonnes habitudes ne se perdent pas, puisque Arles-Avignon est encore parti avec la recette de son dernier match de Coupe de France, qu'il n'a pas laissé au club qui l'accueillait.
C'est la jurisprudence mandoise, ils appellent ça la jurisprudence mandoise.
Allez, on enchaîne.
Donc, on va profiter de nos deux invités. Ande, vous suivez un petit peu le foot, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait, oui.
Marie aussi.
Oui.
Marie, elle est obligée, sinon son frère.
Il
lui prête pas sa chambre.
Pour vous, alors c'est un bon tirage, un mauvais tirage? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'en Coupe de France, à l'extérieur, c'est pas forcément un bon tirage. Même si ça reste Saint-Étienne Andrézieux, dernier CFA de sa poule, ça reste compliqué. Quoi. Ils auront comme la FL les crocs, ils auront envie de passer devant leur public, même s'ils sont derniers, même s'ils sont, entre guillemets, la FL a battu une autre CFA 2 qui est Agde. Bon, Languedoc-Roussillon, c'est toujours comme One Ball, toujours un petit peu plus fort que Rhône-Alpes en termes de niveau, même si c'est du football. Mais voilà, il faudra y aller. Bon, après, la FL a des joueurs de classe cette année, avec des garçons qui ont évolué en national, des garçons comme Fedel, comme Zanina, qui apporteraient même plus, avec Gourma devant. Bon, ça pourrait passer.
Alors, Marie, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ben moi, je pense que c'est pas un tirage favorable pour eux, que ce soit à l'extérieur. Après, c'est sûr que par rapport au public, le public qui est derrière eux, le public qui soutient la FL, après, bon, ils ont les capacités et le groupe pour aller gagner là-bas. Donc,
on espère qu'ils vont passer. En parlant de public, il y a un quart qui sera organisé pour le déplacement. Donc, j'invite tous les gens qui veulent y participer à appeler le siège du club de l'Avenir Foot Lozère. Donc, messieurs, je viens de constater que nos deux invités handball ont fait des meilleures analyses que vous. Donc,
on va peut-être les rappeler.
Va peut-être les rappeler pour les prochaines semaines.
Ils boivent beaucoup de vin.
Ah ouais.
On peut pas les ramener toutes les semaines. On a plus rien. Regarde, la bouteille est déjà vide.
On va être obligé d'appeler le président de l'Union Olympique.
Ouais.
Donc, on va enchaîner toujours sur le football lozérien avec l'ENL qui a réussi une très belle opération ce week-end en battant le club Arpajon qui était premier. Donc eux second, du coup le classement est modifié. Donc le NL est premier. Donc victoire 4-1 avec un 3-0 à la mi-temps où le match était semble-t-il plié, avec des buteurs que sont Dossou, Ekbete, Garel, Rousset et Rua. Donc Patrick, Ludo,
Luc veut parler. Allez, première place.
Ouais, parce que j'ai eu le coach ce matin, Christophe Richaud, le coach de l'ENL, qui m'a dit qu'en fait cette première mi-temps dont tu parles, c'est probablement la meilleure première mi-temps qu'ils ont fait depuis le début de saison, ce qui leur a vraiment permis quasiment de plier le match, à la mi-temps. Même si après ils ont eu un petit passage à vide en deuxième période, mais ils étaient très très contents de la performance de ces joueurs, et pour cause, puisque 4-1 contre le leader, c'est pas neutre. D'autant qu'ils viennent ils restent sur deux victoires 5-0 contre Moulins et en coupe.
Et en coupe la Châtaigneraie.
Et contre la Châtaigneraie en coupe. Ils étaient contents aussi du fait qu'ils prennent de moins en moins de buts et qu'ils ont pour l'instant plutôt retrouvé une espèce de stabilité offensive, ce qui leur faisait un peu défaut depuis le début de saison. Après il est conscient que le plus dur reste à venir parce que passer en tête c'est très bien, mais
il faut
surtout être premier à la dernière journée.
Patrick, ils vont monter ?
Je pense. 4-1 contre le leader, même si c'est à domicile, c'est impressionnant. Je pense que le NL a su digérer sa descente. D'après ce qu'on me dit aussi, ils ont su aussi. Ils ont changé d'entraîneur. Il faut pas dire que l'entraîneur était responsable de la défaite, de la descente l'année dernière. C'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même eu une volonté au sein de l'NL d'une remise en cause à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, au niveau de l'entraîneur et au niveau des joueurs. Et donc ça porte ses fruits. Parce que c'est vrai qu'une Maxime le souffle,
lui qui jouait à Margeride,
il a tout à fait raison. Il se sont renforcés. Donc c'est vrai que quand tu descends, il y a deux solutions. Ou c'est la débandade, tout le monde s'en va et tu continues la descente. Ou alors tu repenses sur une nouvelle dynamique. Et c'est vrai que le NL a su digérer cette descente et on les sent vraiment lancés. Je les sens bien pour retrouver la DH l'année prochaine.
Ils sont descendus avec l'ambition de remonter aussi, donc c'est pas une descente pour dire on est descendu, ça part dans tous les sens. Là ils sont descendus, mais ils ont quand même cette ambition de remonter de suite. C'est vrai que
avec quelques recrues notoires, ils ont.
Il y a le retour de Fred Gaillard aussi.
Fred Gaillard à milieu qui doit bien stabiliser. Guillaume Julien, il a pas marqué, mais il doit bouger devant.
Il est décisif, mais il a pas marqué.
Ils ont pris cette attaque.
Un message d'ailleurs à Guillaume. Il faut se réveiller un peu.
Ils ont pris cet attaquant aussi là, sur Régis Dossou. Il paraît qu'il est vraiment pas mal.
En même niveau de championnat, mais en Languedoc-Roussillon, on va dire un mot de la réserve sans commenter le match. La réserve ramène le match nul de la Clermontaise et classée 10e. Donc le prochain match aura lieu contre
de l'AFL.
Contre Nîmes Lassalien, c'est important pour ne pas être rattrapé par un adversaire direct au maintien. Donc ça sera ce week-end. Marvejol, Laurent.
Donc Marvejol a une nouvelle fois gagné pour un match à l'extérieur à Salendres, 3-2 grâce à des réalisations de El Atri et un doublé de Diallo. Les protégés de Gérard Cafaro ont réalisé un exploit puisqu'ils ont joué à 10 plus d'une mi-temps. C'est un championnat hyper serré puisque Marvejol avait très mal commencé puis se retrouve finalement quatrième. Avec quatre équipes qui ont le même nombre de points. Il y en a une qui a un match à moins. C'est une très belle remontée du club de Marvejol, donc on continue à les suivre et à les encourager.
Très bonne dynamique depuis quelques semaines, on l'a déjà dit.
Ouais, c'est ce qu'on a dit avec l'arrivée de leur recrue là, et puis des victoires en coupe aussi.
Attention à Marvejol, moi je les sens vraiment très très bien aussi. Et dans un championnat hyper serré comme cette PHA où il n'y a aucune équipe qui se détache, avec les recrues, là, les deux joueurs qu'ils ont signés, dans en particulier ce Diallo. On parlait de Régis Dossou, mais là je pense que ce Diallo, il est vraiment phénoménal. Et même pour la PHA, il est même hors niveau par rapport à la PHA. Il peut jouer nettement au-dessus. Ça peut basculer du bon côté. Hein, et pourquoi pas Marvejol retrouver la DHR comme il y a quelques années. Moi, ça me paraît pas inenvisageable parce que franchement, je pense qu'il y a une grosse équipe cette année à Marvejol.
Ce petit Diallo là, comme tu dis, donc c'est un joueur longiligne qui doit faire 2 mètres. Ouais. Il avait joué avec nous avec la 3 de l'Avenir Foot Closer. Ouais.
Ah bon?
Ouais.
Lors d'une finale de Coupe d'Alu, il avait été.
Il plante 3-4 buts par match, mais.
Comment il peut venir avec vous qu'un match?
Non, pas qu'un match. Il a fait toute la fin de la saison.
Il a fait toute la fin de la saison.
Il y a deux saisons. Et puis il est reparti dans sa famille, dans la région parisienne. C'est dommage qu'il soit pas resté au club parce que je pense qu'il aurait fait vraiment du bien au sein du club. Il a suivi son coach
Comment ça se fait qu'il jouait avec l'équipe 3 à ce moment-là à l'FL? Il avait pas le niveau à l'époque?
Il est arrivé en cours de saison et bon, d'après ce que j'avais compris, c'était compliqué après de prendre le train en marche. Mais on sentait déjà qu'il était vraiment, vraiment très au-dessus de Nulo, quoi.
Donc on va passer maintenant faire un petit clin d'œil au club de Langogne. On n'en avait jamais parlé encore depuis le début. Langogne qui joue en élite et qui ne joue pas en élite comme Ludo.
Ouais. Moi je joue en élite.
Qui gagne contre Coubon 2-1 et qui est bien classé puisque quatrième dans ce championnat Haute-Loire. Donc un autre mot aussi sur les autres équipes lausériennes qui jouent dans le Gard où on n'a pas mis encore en lumière, c'est en promotion de première division. Il y a le Buisson qui caracole en tête championnat.
Première division.
Gard Lozère, oui.
Promotion de première, c'est des DFL.
Oui, tu as raison. Donc, le Buisson caracole en tête de son championnat avec 5 victoires en temps de rencontre. Badarou est second, a gagné ce week-end à Barjac dans le Gard.
Compliqué. Hein.
Et Saint-Georges est troisième, donc on voit trois équipes lausériennes aux trois premières places, c'est chouette. Et la STT qui est classée septième dans le ventre mou du championnat, c'est bien aussi.
Qui a gagné aussi. Voilà. Ils ont gagné contre Saint-Christophe et les Alès 4-2.
Que le surnom de Patrick Biancone est le maître Capello du football.
Voilà, exactement. Et
non,
d'ailleurs.
Mais c'est vrai que tu fais bien de parler de cette première
division. Maître Capello.
Il faut parler du Buisson. Bon, le Buisson, c'est 235 habitants. Il y a quatre équipes seniors,
l'altitude
1802 voilà, non, un peu moins, mais bon, voilà, 235 habitants, quatre équipes seniors garçons, une équipe senior féminine, des jeunes, tous les mercredis, si vous allez au stade du Buisson, il y a des gamins qui courent de partout.
C'est pour se réchauffer, ça.
Voilà, ils ont réussi à fédérer tout un canton, et c'est vraiment un club à part. Ouais, et bon, voilà, il faut souligner l'implication, la motivation qu'ils ont dans ce club. Et bon, ils sont premiers, j'espère qu'ils vont le rester, qu'ils pourront accéder à ce PHEB. Et j'espère qu'ils accepteront de monter un PHEB parce qu'ils ont largement les moyens d'évoluer à ce niveau.
Allez, on change de sport parce qu'on est à la bourre déjà, voilà, pour le football. En rugby, match nul 8-8 du RCML contre Conques au classement. Le RCML est 6e sur 9 équipes. Alors, faut préciser que Conques était leader du championnat, donc un beau match nul.
Conques vit le Mostosou.
Ouais, mais ça, je n'arrive pas à le dire, alors je m'arrête à Conques. Luc, tiens, tu prends la parole, c'est à toi.
Bah 8-8, c'est bien. Ça leur permet d'endiguer un peu puisqu'ils étaient sur 2 défaites d'affilée. Et puis 8-8 contre le leader, c'est plutôt un bon résultat. C'est pas vraiment ce qu'on appelle un match d'attaque, mais c'est plutôt encourageant pour le RCML qui continue dans ce qu'on disait la dernière fois avec Jules et Kylian, son renouveau cette saison.
Patrick.
Oui, ils ont failli gagner puisque l'équipe visiteuse, les Audois, ont égalisé sur une pénalité à 4-5 minutes du coup de sifflet final, donc. Bon, quand tu te fais rejoindre sur le fil, tu as toujours un peu des regrets, mais bon, c'est vrai qu'un match nul, bon, quand tu es une grosse équipe, voilà, c'est un bon résultat. Ils sont au milieu de tableau. Bon, voilà, je pense qu'on peut dire que le début du RCML est réussi.
Vous suivez d'autres résultats par le foot, d'autres sports, le basket, le volley, le rugby, Maxime?
Moi, je suis tous les sports. Oui.
Tous les sports.
Rien. J'ai des amis un peu dans différentes équipes, différents sports, donc je suis un peu
le résultat. Badminton aussi, tu suis?
Le badminton.
Alors, il y a eu un tournoi à Mende avec une grosse finale en double, mais on en a déjà parlé.
Ils nous ont pris le gymnase la veille de l'entraînement, c'était super.
C'était nickel. Bravo.
Pour s'entraîner, c'était bien.
Ah, on parlera bien, on fera un débat en fin d'émission sur ça. Marie?
Moi, je suis quelques sports, notamment le volley. J'aime bien le volley.
Alors, ça tombe bien, il n'y a pas eu de match de volley ce week-end, donc on ne peut pas en parler. On en parlera lundi prochain. Merci Marie. Basket. Laurent.
Donc aïe. Luc, maintenant c'est à ton tour, donc je vois qu'il baisse un petit peu la tête.
Ah, il a pas la baissé. Hein.
C'est un mauvais week-end pour le club lausérien avec des défaites pour les garçons contre Pézenas et les filles à Lunel contre le leader. Tu peux nous faire un débrief de ces deux matchs?
Surtout les filles, parce que bon, les garçons, on est habitués.
Ouais, les garçons, ils font preuve d'une constance remarquable. Ouais. Ils avaient perdu 40 points à domicile contre Pézenas, ils perdent 42 points à l'extérieur contre Pézenas. Donc bon, voilà, ils sont partis à 7. Malheureusement, ils ont joué à 7 joueurs.
Ah, d'accord.
Parce que s'ils jouent contre Pézenas à 7, c'est pour ça qu'ils ont perdu.
Il y a un joueur qui s'est blessé à l'échauffement, qui s'est fait une entorse de la cheville. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ils ont dû jouer.
Un bon rétablissement, du coup.
Ouais, alors, c'est embêtant parce qu'en plus il avait des concours à passer dans 15 jours. Ouais. Mais voilà, on lui souhaite un bon rétablissement, effectivement. Mais donc du coup, bah, ils se sont retrouvés à 6 pour jouer, ce qui est pas l'idéal avec un seul remplaçant. Quant aux filles, les filles, elles ont joué contre le leader Lunel, qui avait une seule défaite au compteur, qui était d'ailleurs amende au match aller. C'est pareil, elles n'étaient pas au complet non plus. Il n'y a pas eu de surprise. Elles ont fait un gros début de match. Elles mènent 11-0. Et puis elles se font remonter et passer devant à la fin du premier quart-temps. Lunel a fait quasiment la course en tête tout le temps puisqu'elles ont jusqu'à 20 points d'avance. Sur la fin, les filles reviennent un peu au courage pour revenir à 7 points, mais c'est une défaite logique.
C'est une défaite méritée, ouais.
Ça donne quoi au classement alors du coup ?
Au classement, ça donne qu'elles sont pour l'instant 3e avec un point de retard sur Montpellier qui est 2e. Donc,
de toute façon, les players,
là du coup, on regarde quand même le 4e plutôt.
Alors, le problème, c'est que c'est les deux premiers qui vont monter. C'est les deux premiers qui vont monter en play-off. Les 4 dernières vont faire les 4 dernières. Les 4 dernières vont faire les play-down. Là, clairement, Lunel est en tête avec, je crois, 4 points d'avance. Il y a Montpellier qui a 2 points d'avance sur 1 point d'avance sur nous. Et Alès qui a un match de retard, qu'elles vont très certainement gagner, qui aura pareil 13 points et les Mendoz ont 12 points.
En fait, t'es 3e, tu joues rien, quoi. Tu joues pas les play-down ni les play-down.
Tu joues play-down.
Tu joues quand même le play-down.
C'est les 4 dernières. Il y a 6 équipes.
Les 4 dernières. Voilà, il y a 3 poules de 6 équipes. Donc les 4 dernières de chaque poule vont jouer les play-down. Il y aura 2 poules de play-down et une poule de play-off. Ce qui est plus intéressant, parce qu'avant, il y avait une poule de play-off, une poule de play-down et une poule qui servait à rien.
Donc le prochain match, c'est quand ?
Alors le prochain match, c'est le 6 décembre. Donc les filles jouent à 18h30 contre Saint-Christol et les garçons à 20h30, je crois qu'on sait.
Donc pour Montpellier, les gens, les auditeurs qui nous écoutent et qui peuvent pas se rendre à Andrézieux. Encourager
à 18h30
les basketteurs
avec un Walkman
avec leur Walkman
pour écouter le match commenté.
Je suis plus vraiment les Walkman d'ailleurs, mais
merde.
donc pour venir voir au journal Saint-Privat.
Pourquoi il n'y a pas de match au week-end?
Parce qu'on faut qu'on fasse des breaks un peu de temps en temps.
Des breaks?
Non, des breaks. Oui, mais dans la break, c'est pour après le match.
Ok. On va passer à l'actualité de nos invités, donc le MGC handball. Donc défaite de l'équipe senior N3 contre le leader Voiron 26-20. Une entame de match très compliquée puisque au bout de 10 minutes il y avait 7-1 pour les visiteurs, donc un écart de 6 buts que l'on retrouvera à la fin du match. Un petit but du petit Giral, donc j'ai pas son prénom, c'est
Jérémy.
Zéro but de Damien Portebled. Donc du coup, on constate que les ailiers ont été bloqués, donc par l'équipe de Voiron qui elle était en confiance, un très bon bloc équipe. Une équipe lausérienne peut-être elle du coup l'inverse, un manque de confiance. Maxime, peux-tu nous parler de ce match ?
Oui, donc un match compliqué globalement dès le début, puisqu'on donc comme vous le dites, on a pris donc 7-1 à Eddy Première, une équipe de Voiron. Qui est première du championnat, donc on avait remarqué qu'il y avait une grosse défense puisqu'elle était première défense du championnat avec 32 buts de moins que donc la seconde défense. On s'est malheureusement pour nous, on a fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on s'est concentré secteur central sur nos attaques. Malheureusement, ils nous attendaient là, comme vous avez fait l'analyse, les ailiers ont très peu marqué car on a très peu décalé sur l'extérieur, très peu donné de ballon aux ailiers. Donc qui est notre pourtant, on a deux gros. On a quatre garçons qui jouent à l'aile, c'est de très bons finisseurs. Donc voilà, malheureusement. Après, on revient bien. On revient à 3 buts.
3 buts, voilà, c'est ça.
Ouais, et puis, de nouveau, 6 buts à la mi-temps. On rattaque le début de seconde de mi-temps compliqué, pareil. On revient bien, on lâche rien. Au final, ça fait 20-26. C'est pas un gros score, mais bon, c'est quand même une défaite.
Moi, ce que j'ai pu constater, donc j'étais au match, c'est que vous avez jamais réussi à emballer le match, quoi.
Tout à fait.
À faire douter l'adversaire. Ils avaient un meneur de, je sais pas comment on appelle ça.
Demi-centre.
Un asiatique, là.
Tout à fait.
C'était.
Quand même des bons joueurs en face, puisque comme vous dites, ce demi-centre asiatique jouait en National 1 l'an dernier.
Ah oui, d'accord.
Leur arrière gauche qui était en D2 l'an dernier à Valence. Donc c'est quand même des bons joueurs, mais bon, après, sur le. il y a moyen de faire mieux, il y a moyen de faire
la
mieux.
La finale, 6 buts d'écart avec des joueurs qui sont d'une classe supérieure à la vôtre.
Bon, ça relativise
mal,
un petit peu le match.
Oui, mais c'est bon, c'est des excuses, je pense, pour c'est, nous. C'est ouais, une façon pour nous de nous dire que parce que bon, c'est on a moyen de mieux faire quoi. Ouais, mettre 20 buts en un match, c'est pour une équipe qui joue un jeu rapide comme nous, sur montée de balle, contre-attaque directe. Ouais. On peut pas gagner un match en même but, quoi.
D'accord. On se donne pas d'excuses. On est entre nous. Personne nous entend. Bon, qu'est-ce qui se passe alors dans cette équipe là, Maxime?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir la situation?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, on a eu. Bon voilà. Après nous, on est une bande de copains. On est jeunes.
Ça, Maxime, ça me fait plaisir que tu dises ça, puisque la semaine dernière, Luc m'a repris en me disant, ça fait longtemps qu'ils sont jeunes. Mais
ça fait longtemps qu'ils sont jeunes, en même temps, bon, j'ai envie de dire. On est amende, à titre de comparaison, avec une autre équipe qui est en National Amende, c'est le volley, qui est en National 1, ouais, qui a beaucoup de joueurs de l'extérieur, beaucoup de recrues de l'extérieur. Nous, on est essentiellement mandois, hormis deux jeunes, donc Fabien Marty et Robin Martholomé, qui arrivent cette année, donc, de Latte, donc, ça fait, et de Fabien Marty, qui arrive de Trèbes, ancien joueur qui a fait un centre de formation.
Fabien Martholomé, c'est le gaucher.
Le gaucher qui joue donc avec moi à mon poste.
D'accord. Ouais.
Qui apporte vraiment un plus parce que c'est deux jeunes super investis, enfin, qui sont.
La moyenne d'âge, c'est quoi?
La moyenne d'âge, j'ai envie de dire que c'est donc le capitaine Damien Bordeblet qui a 26 ans, Florian Cos 24 ans. Après, c'est que des jeunes aux alentours de 22, 20 ans, et même plus jeunes comme.
Ça reste assez jeune quand même.
Ouais, c'est ce que je disais. C'est qu'effectivement, vous avez un effectif qui est jeune, mais qui a déjà eu cette expérience-là.
Qui a déjà eu
en National 3. Voilà, c'est là où je disais, ils sont pas si jeunes que ça.
Ils sont pas si jeunes. Bon, on a eu National 3, on a fait une année en Pool 7. Donc, mais là, on avait donc aussi un gros joueur qui était donc Xeno, donc un Roumain, donc qui a joué à haut niveau, qui vraiment a porté vraiment un plus considérable cette année-là. Il fait quatrième de Pool 7. L'an d'après, on prend la poule 8, où là, donc on perd ce joueur, et là, on prend des gifles monumentales. Où là, on a vraiment senti qu'on pouvait, même en étant à 200%, en se battant sur tous les matchs, on sent qu'il y a vraiment une classe d'écart.
Quoi. Excuse-moi, Maxime, c'est quoi la poule 7, poule 8, là?
Poule 7, donc c'est au niveau Rhône-Alpes, donc c'est tout ce qui est côté Rhône-Alpes, Auvergne, donc là où on évolue cette année. D'accord. Et poule 8, c'est où on évolue l'an dernier, donc c'est tout ce qui est PACA. Région PACA, donc
Corse, c'est plus élevé, c'est ça le.
C'est
plus
réputé. Si vous voulez, il y avait beaucoup d'équipes, puisqu'il y avait bénéficié d'anciens joueurs professionnels, donc on sentait quand même.
Il y avait quelques réserves d'équipes pro aussi.
Et les déplacements en Corse qui ne sont pas faciles. Deux, quand vous y étiez, me semble un déplacement.
La Corse, donc oui, il faut surtout pas gagner en Corse si on veut repartir.
C'est ce qu'on m'a dit,
Donc, Maxime, là, tu viens de nous parler un petit peu de tes coéquipiers. Je vais te poser une question un peu plus légère que je poserai à Marie tout à l'heure aussi, qu'elle se prépare. Dans l'équipe, il y a toujours un chouchou. C'est qui National 3 là? Tu peux déballer, vas-y.
C'est compliqué, le chouchou.
Le fils du coach.
Ah, le fils du coach, avant c'était François Velay, malheureusement il s'est blessé et il ne revient pas. Bon, maintenant le fils du coach, on va dire que bon, c'est le capitaine, Damien Porte-Blaine, bon, c'est bon enfant.
Ok.
C'est quoi l'objectif de la saison? C'est le maintien?
C'est le maintien, absolument. On peut pas se. On a été entre guillemets content de se dire qu'on était en poule 7, de se dire qu'on était en seul 3 poule 7, c'est moins fort, on va pouvoir exister. Et en fait, on se dit que chaque match est un combat, quoi. Il y aura pas de, c'est le maintien, il faut pas se mentir.
Qu'est-ce qui vous a manqué sur ces matchs de début de saison? On voit contre Saint-Flour.
C'est sur la fin souvent que vous lâchez. C'est quoi?
C'est sur la fin.
C'est le physique, c'est le mental.
Alors là, je suis désolé de vous dire, c'est surtout sur le début du match, puisque.
En l'occurrence, Saint-Flour, c'était sur la fin.
On fait des analyses globales avec lui.
C'était aussi, vous les tenez, puis c'est sur la fin que vous lâchez.
De la rigueur, simplement de la rigueur. C'est-à-dire que l'an dernier, pré-national, une victoire se faisait peut-être en première mi-temps où on mettait peut-être 7-8 buts d'avance, où là on pouvait se permettre des erreurs, des pertes de balles, des choses comme ça. Là, première 60e, c'était pas régulier, tu donnes 2-3 ballons, l'adversaire passe à plus 2, plus 3, tu le revois plus, quoi.
Patrick, on t'a pas entendu encore.
Oui, non, c'est un peu une déception, hein, il faut le reconnaître. Hein. Bon, je le dis aussi là, franchement, on s'attendait pas à un début de saison aussi compliqué de la part du MGC. Et je pense que, aussi bien au niveau des dirigeants que du staff, que des joueurs, je pense qu'eux aussi s'attendaient pas quand même à autant de difficultés et de se retrouver quasiment l'avant-dernier ex aequo avec notre équipe. Bon, heureusement, il y a une équipe encore derrière qui a perdu tous ses matchs et qui apparaît vraiment. Vraiment très faible, donc bon, voilà, la dernière place semble quasiment assurée. Donc il va falloir, si je peux me permettre, il va falloir un peu se réveiller et peut-être retrouver un peu ce mordant, cet orage, parce que bon, moi j'ai vu quelques matchs quand même l'année dernière. Bon, c'est vrai, le niveau est inférieur aussi, comme tu le disais. Bon, là c'est compliqué de faire 7-8 buts d'écart en première mi-temps. Mais bon, voilà, il y avait aussi un peu cette orage, cette niaque. Et bon, peut-être que cette année un peu moins. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais bon, voilà, on en a parlé hors antenne. Il y a des matchs qui se profilent dans les semaines qui arrivent contre des équipes, bon voilà, qui sont juste au dessus. Et donc c'est là qu'on va voir. Il y a 3-4 matchs, en particulier celui de la semaine prochaine à Annecy qui est juste au dessus. Donc après, vous recevez Mélan qui est aussi au même niveau que le MGC. Donc voilà, c'est des tournants, mais. Bon, je te laisse la parole pour savoir si je me trompe ou s'il y a un peu de ce que je viens de dire.
Non, il y a du vrai, c'est sûr, mais voilà, par rapport aux années précédentes, même en poule 8, on sent que cette année, tout le monde ne peut battre tout le monde. C'est-à-dire que nous...
C'est plus homogène, c'est ce que me disait votre président en début de saison.
C'est plus homogène. Vous voyez, à Villeurbanne, qui est troisième du classement, on mène de 4 buts jusqu'à 5 minutes de la fin, et on prend moins de 3, quoi. Fait jamais de dire, on peut battre tout le monde. On a joué beaucoup de matchs à l'extérieur aussi. Il faut qu'on le regarde.
C'est juste le troisième match à domicile. Hein.
Voilà, il faut qu'on le regarde. Voilà. Il va y avoir, c'est sûr qu'il y a 3 matchs qui sont importants. On joue le 8e, le 9e et le 11e.
Voilà.
Il va falloir. Nous, on va y aller. De toute façon, on va être en mode sur commando, quoi.
C'est ça.
Il faut faire une série, là. Les 3 matchs qui arrivent, là, bim bam. Victoire.
Nous, en interne, il n'y a pas de souci, quoi. On lâche rien. Notre souci à nous, c'est qu'on a des étudiants. Donc, pour s'entraîner la semaine, le gros entraînement, c'est le vendredi. Mardi, mercredi, on fait souvent. Bon, heureusement qu'on a aussi l'équipe réserve, hein, l'équipe réserve où j'ai su amener déjà à jouer. Et heureusement qu'on est là, heureusement qu'ils sont là, parce que ça fait du monde.
C'est bien que tu soulèves ce problème.
Ouais, c'est vrai.
C'est important.
Pour évoluer en National 3.
Parce que le hand, ouais. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop ce sport, c'est hyper tactique. Hein. Donc, il y a des combinaisons qui sont répétées à longueur d'entraînement pour pouvoir justement les reproduire en match. Bon, c'est pas comme le foot. Le foot, tu travailles tactiquement. Mais là, au hand, c'est encore pire.
La différence, c'est aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est les détails.
En National 3, un entraînement par semaine, c'est pas suffisant. C'est compliqué.
Le meneur de jeu, Raphaël Wöringer, qui est le demi-centre, donc qui annonce toutes les combinaisons, étudiant à Clermont. Donc il est là que vendredi. Antoine Soulier, pivot, donc il est là. Fabien Marty, la recrue, qui est là que vendredi. Mais bon, c'est des garçons à qui on peut rien reprocher, qui sont là, qui sont.
Donc voilà. Il faudrait recruter. Donc c'est au même droit de faire. Ils font pas d'études, quoi, en fait.
C'est ça. Non, même pas, parce que ça apporte. Ça apporte un plus considérable, quoi.
Non, mais c'est évident.
C'est des joueurs formés au club aussi, pour la plupart.
C'est des joueurs essentiellement formés au club.
Messieurs, on va peut-être passer au.
Ouais, Maxime, merci pour ta franchise, pour cette analyse de l'équipe. De toute façon, on en parle chaque semaine. Nous, ici, on vous suit avec attention.
Donc maintenant, on va
parler de victoire maintenant.
On va parler de match nul plutôt.
Presque.
Oui, mais
on va parler des filles, donc qui font match nul à Bouillargues 20-20. Marie, ça aurait été sympa pour l'émission que vous marquiez un but de plus.
Oui,
raconte-nous ce match et puis plus globalement le début de la saison, le classement, un peu où est-ce que vous en êtes.
Sur le match de Bouillargues, donc on est classé 4e, Bouillargues est 5e, donc c'était un match vraiment qu'il fallait pas perdre pour pouvoir mettre de la distance avec cette équipe. Donc Bouillargues, on sait que c'est une grosse équipe à la maison qui ont beaucoup de joueuses, d'anciennes joueuses de division, de national. Donc
qui ont gagné la Coupe d'Europe.
Oui.
Ah bon, Luc.
Ah bah oui.
C'est bien ça.
Non, mais Bouillargues, ça a été un des meilleurs clubs en France il y a peut-être 10, 15 ou 20 ans. Et bon, maintenant, elles ont arrêté le haut niveau professionnel. Mais bon, Bouillargues, ça a été un des meilleurs clubs français de ces 20-25 dernières années.
Bouillargues a été un des premiers clubs européens à faire en D1, avec notamment Chantal Maillot, qui était une des meilleures joueuses, une capitaine de l'équipe de France. Et qui récupère effectivement, il y a beaucoup d'anciennes Denis, mais notamment une qui a gagné la Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe avec.
Il y a 25 ans.
10-15 ans, s'il te plaît.
Nîmes, la Coupe d'Europe, ça va être en 2000, je pense.
C'était en 2000, il y a 15 ans.
Qui était la gardienne de Nîmes à l'époque et qui joue aujourd'hui en réserve de Bouillargues.
Ok, Marie, donc match nul, comment s'est déroulé le match?
Donc du coup, c'est vrai qu'en face de nous, on avait beaucoup de joueuses d'expérience, des gabarits. Des gros gabarits en face de nous, donc.
Comme Laurent. Des gabarits comme Laurent.
Même plus que
des
Laurent.
Balèzes.
Mais c'est énorme, vrai que c'est
un exploit alors.
C'était impressionnant et on a su se montrer dans la tête, en avoir beaucoup de mental, être vraiment joué collectivement et être. On a vraiment été des guerrières. C'est le mot qu'on a sorti à la fin parce que ce match on aurait pu le perdre. Bon, on aurait pu le gagner aussi, mais on aurait pu vraiment le perdre suivant comment. fait, Laurent. Donc,
vous êtes coaché par... c'est qui votre coach, en fait?
Roland Michel Balou.
D'accord.
D'accord. Match nul, tu dis on aurait pu le perdre parce qu'il y a des matchs nuls qui sonnent comme des défaites et des matchs nuls qui sonnent comme des victoires.
On aurait pu le perdre parce qu'à la fin, elles ont le ballon du plus 1. C'est elles qui ont la balle, donc...
Donc c'est un beau match nul.
Voilà, on peut le perdre, mais on peut aussi le gagner suivant comment ça se passe. Mais bon, on est satisfaite de ce match nul qui nous laisse toujours devant Bouillargues. Et puis voilà, on a retrouvé vraiment un esprit d'équipe, ce combat qu'on a mené pendant 60 minutes qui était énorme.
Par contre, bon, nous à la radio, on est très fiers de vous, les filles, surtout Luc qui vous suit avec attention, qui vous prêtait une seule victoire la semaine dernière.
Oui, voilà.
Et ma fête, c'était le 18 octobre.
Ah, d'accord. Donc, Marie, peux-tu nous parler un petit peu de l'effectif avec qui tu joues? Est-ce que c'est un effectif jeune, comme les garçons, un peu moins jeune?
Ton poste, dis-nous. Déjà, Marie, on ne vous a même pas demandé vos postes.
Arrière-gauche.
Arrière-gauche, oui. D'accord. Droitière, donc.
Oui.
Maxime, tu joues quel poste?
Je joue arrière-droit, gaucher.
Arrière-droit, gaucher. Ah, ben c'est bien, on pourra faire une équipe avec vous. oui, donc l'effectif demande peut-être les points forts aussi.
Un petit effectif de 11 joueuses, dont une blessée qui s'est blessée en début de saison, qu'on retrouvera qu'en février, Carole Acmel. Donc voilà, en espérant qu'elle se rétablisse vite. Donc voilà, on se déplace à 8, à 10 pour l'instant ces week-ends-là. Donc après, on a un effectif, donc c'est... c'est jeune, oui et non, parce que bon, on est toutes, on a seulement deux étudiantes dans le groupe. Après, c'est que des joueuses qui travaillent et on travaille le week-end, donc et le soir. Donc c'est ce qui nous pose problème aussi avec les boulots qu'on a. Donc c'est que des fois on n'est pas là le week-end ou il faut s'arranger pour les entraînements. On n'est pas tout le temps aux entraînements. Donc
peut-être qu'il y a des mères de famille aussi.
Oui, une.
Ça ne nous regarde pas ça, Laurent.
Non, mais pour.
On sait que ça t'intéresse.
D'autres occupations qu'un entraînement.
Non, mais on ne veut pas savoir.
On a une mère de famille, mais c'est une mère de famille qui son fils est grand maintenant. Donc,
ça va.
Donc ça va parce qu'on a quand même deux anciennes dans l'équipe qui ont 40 ans. Donc qui sont là et qui assurent tous les week-ends et qui s'investissent. Non, mais bon, elles m'en voudront pas. Mais c'est vraiment deux personnes qui sont là, qui nous apportent leur expérience et qui sont là et qui s'investissent à fond, quoi, comme si elles avaient 20 ans. Hein.
Quatrième, rappelle-nous la division, donc c'est régional.
Oui, en fait, du coup, on est inscrit en pré-national. Et les pré-nationales et les régions sont mélangées, donc dans le Languedoc-Roussillon. Donc du coup, ça fait deux poules de 8. Et les quatre premières de chaque poule sortent en poule haute pré-nationale et les quatre dernières en poule basse région.
Et cinquième pour l'instant.
Quatrième.
Donc pour l'instant, on est bon.
Bouillargues,
c'est cinquième.
Ah, c'est Bouillargues.
L'objectif, c'est quoi?
C'est de monter déjà en poule haute. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait fini quatrième de la poule haute. Donc c'était un bon résultat. Et cette année, voilà, c'est toujours d'être dans le haut du tableau de la prénat. Donc... Voilà.
Moi, j'ai deux petites questions. Alors, une pour te mettre un peu mal à l'aise vis-à-vis de tes collègues. Qui c'est la chouchoute dans l'équipe?
Je pourrais pas dire que c'est la femme du coach, mais je vais plutôt dire Muriel Tarusson.
Ah, qu'on salue.
Salut.
Qu'on invitera la semaine prochaine pour balancer sur ses collègues.
Et deuxième question. Donc, prochain match, c'est quand?
C'est samedi à 20h30 à Mende. On reçoit Ramon, qui sont sixième.
D'accord. Vous jouez à la Vernède?
À la Vernède. Et on jouera aussi dimanche. En Coupe de France.
Vous enchaînez le week-end?
C'est un match report, samedi, c'est un match report de championnat.
C'est légal, ça, de faire ça?
Samedi et dimanche?
Ouais, on joue samedi et dimanche, donc on va avoir besoin de monde pour nous soutenir. Donc bon, c'est vrai que la priorité, ça va être le championnat samedi contre Aramon, où on va vraiment tout donner. Et après, ça sera la Coupe de France contre Orange, une départementale, qui viendra donc à Mende. On jouera à Notre-Dame, si d'ici là...
Ça n'a pas changé.
On aimerait bien jouer à la Vernède, que la Vernède se libère.
C'est bien parce qu'à 11, vous pouvez faire deux équipes, une le samedi, une le dimanche, mais sans remplaçant, quoi.
Voilà, ouais, non.
On tourne pas. Patrick, c'est quoi cette histoire, là? On joue le week-end
ouais,
de match.
Je découvre ça, comme tout le monde ici. Bon, c'est vrai que c'est surprenant, hein, deux matchs en deux jours. Bon, déjà, au football, ça serait impossible. Voilà, réglementairement, là, c'est impossible. Au rugby, n'en parlons pas. Au volley, c'est différent parce que des fois, il y a des tournois, donc ils peuvent même faire deux, trois matchs dans la même journée parce qu'il y a trois, quatre équipes, là, c'est pour les Coupes de France. Donc, au volley, ça se voit un peu plus. Mais bon, voilà, je savais pas que c'était possible.
Là où c'est étonnant, c'est que le handball, c'est quand même un sport très exigeant. Et mettre deux matchs
pour les amateurs, quoi, c'est ça.
Enfin, surtout pour nous, quoi. Mais
ça a été très compliqué par rapport à ce report de ce match. Et bon, Voilà, il a été mis ce samedi-là. Donc,
on va questionner la Ligue, Patrick, pour l'émission de la semaine prochaine, là, leur demander des explications.
On viendra vous encourager. Donc le samedi à la Vernède, le dimanche à Notre-Dame. Ouais.
Et le dimanche à Notre-Dame, en espérant que ça change et qu'on soit à la Vernède, le dimanche à 14h, contre Orange.
Comment on va passer à l'actualité nationale? On va vous demander, vous avez une équipe favorite en handball en championnat de France ou au championnat international? Vous suivez qui?
Étant du Languedoc-Roussillon, on va dire Montpellier.
Très bien, bon choix.
Moi, je dirais Paris.
Paris, d'accord.
Qataris.
Ah, bravo les Qataris, l'argent, les joueurs.
Donc moi, bien. Je voulais faire un petit clin d'œil pour les moins de 13 filles qui reviennent du club de Nîmes, l'HBCN, avec une victoire à 18-13. Donc je leur dis comme la semaine dernière, bravo les filles, continuez. Et puis Ludo va nous faire peut-être un petit point sur le handball en Nord-Lozère.
Oui, avant cela, Maxime veut dire un mot.
Je voudrais aussi moi féliciter mes collègues de l'équipe réserve. Donc on parle pas souvent. Qui préserve donc de senior garçon qui a gagné donc 24-20 donc ce week-end
contre
j'ai perdu le mot
contre une équipe qui a perdu
comme Perpignan excusez-moi. Donc l'équipe réserve qui est descendue en honneur régional donc à un niveau correct qui prétend remonter cette année en excellence et avec qui on
et
fera
c'est
tout
une
pour
équipe
remonter.
Très jeune là par contre
c'est une équipe jeune encadrée par un ancien Maxime Joubert donc encadrée par Maxime Joubert qui se démène au quotidien pour l'équipe réserve, avec les présidents en plus. Et donc, on a un groupe de 16 à pouvoir jouer en National 3. Et il y a cette équipe réserve qui était avec nous et qui se bat pour remonter aussi.
C'est bien de parler des équipes réserves. En Nord-Lozère, tu me posais la question, Laurent. Il y a un club, l'handball Nord-Lozère, qui s'est déplacé à Murat, les féminines et les masculins, donc qui évoluent en championnat inférieur. Les féminines qui gagnent 25-20 à Murat, tandis que les garçons gagnent... qui perdent, 19-26. Voilà, pour parler aussi de cette équipe en Nord-Lozère. Il y a une équipe d'handball aussi, Luc, je crois, à Langogne. Ouais. À Langogne, c'est ça.
Toujours en Haute-Loire.
Voilà. Laurent.
Donc, Ludo, peut-être tu pourrais nous parler de la Ligue des Champions rapidement, là, avec le club de Montpellier, avant de faire une vraie pause musicale.
On ne fait pas de pause musicale, on enchaîne avec les Nations, si tu veux. Donc, Maxime va m'aider, vu qu'il a suivi également la Ligue des Champions Montpellier, qui gagne d'un petit but en Russie, c'était pas gagné d'avance.
C'était donc à Tchékov, donc ils gagnent d'un but donc sur un contre un de leur donc international argentin demi-centre Diego Simeone. Donc Montpellier qui est cette année donc après les histoires de Paris, de Nicolas Karabatic, etc. qui est encadré par un homme comme Patrice Canaillet peut aller très loin quoi. Cette année ils sont quatrièmes là au niveau groupe de Ligue des Champions. Les quatre premiers sont qualifiés en huitième. Donc ils vont jouer la qualification pour les huitièmes avec un groupe jeune mais très performant quoi.
Ouais, une équipe de Tchékov qui est pas non plus le grand Tchékov qu'on a connu ces dernières années.
Mais c'est toujours dur d'aller.
C'est toujours dur, c'est toujours dur. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où c'était c'est pareil l'argent russe qui avait fait une équipe de All-Star. Bon là c'est un peu moins le cas.
Il y a que Montpellier qui joue avec des champions.
Il y a Paris avec un effectif donc pléthorique de stars. Qui a une nouvelle fois perdu donc sur le terrain de Kiel, donc champion d'Allemagne dans une salle de 10 000 personnes où on dirait que c'est.
Kiel, il y a rien de déshonorant.
Non, il y a rien de déshonorant,
si ce n'est qu'il manquait quand même Palmarsson et Jicha, donc les deux meilleurs joueurs quasiment du monde. Il manque leurs deux meilleurs joueurs à Kiel.
Après,
il y a Dunkerque aussi. Il y a un troisième français.
Champion de France. Ne pas oublier Dunkerque, hein, personne n'en parle.
Qui a perdu d'un but contre un club hongrois. Hongrois qui sont aussi très, très bons au handball.
Ce qui est embêtant pour Paris, c'est qu'ils ont quand même mis de gros, gros espoirs sur cette Coupe d'Europe. D'ailleurs, presque plus que sur le championnat.
Allez, on entend les cloches qui sonnent, c'est la pause musicale, une chanson voulue par Laurent avant de parler de l'actualité nationale et internationale.
Concentrez-vous.
Voilà, qu'on n'écoutera pas jusqu'à la fin parce qu'elle est trop longue, on ne pourra pas parler sinon.
Et voilà, il a réussi à avoir sa chanson, il a demandé depuis quelques semaines, et il est content, c'est Laurent, c'était à CDC. Allez, on reparle de sport nation. Avant cela, on va parler de troisième mi-temps, donc avec Marie, qui nous parlait de ses troisième mi-temps contre l'équipe de Bouillargues. On voudrait savoir qui c'est qui a gagné cette année la troisième mi-temps, si le match a été nul.
Cette année, ça a été, on va dire qu'il y a match nul aussi à la troisième match mi-temps, aussi. Parce que c'était un dimanche. Mais quand elles nous reçoivent un samedi, c'est différent. On est pas mal quand même.
Vous repartez pas.
On repart pas. C'est un très bon accueil chez elles.
Ok, bon, salut le club de Bouillargues alors. National, Laurent, de quoi tu veux parler
Alors d'abord, on pourrait parler de la Coupe Davis et de cette défaite l'équipe de France contre la Suisse et un Roger Federer et un Wawrinka au top. Patrick, toi qui es le spécialiste badminton.
Ouais. Bon, Federer était blessé et Tsonga était en pleine forme. Et puis finalement, quand ça compte, c'est Federer qui est en pleine forme et Tsonga qui est blessé. Bon, voilà, à mon avis, il n'y a pas eu de match. À part mon fils qui a fait vraiment ce qu'il fallait. Mais bon.
Est-ce que Federer s'est pas un peu économisé sur le premier match finalement en nous disant j'ai un peu mal au dos?
Et sur la finale du Master qu'on balançait la semaine dernière sur lui, disant que c'était pas beau ce qu'il avait fait, et on s'est dit peut-être qu'il sera pas là. Non, il est là, il met une tolle.
On peut confirmer.
C'est pas beau.
Après, c'est sûr qu'on aurait préféré que la France gagne, c'est évident, mais bon, pour Federer, je suis pas déçu parce que Federer, quand même, c'est à mon avis le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Bon, c'est d'ailleurs c'est lui qui a gagné le plus de grands chelems dans l'histoire de ce sport. Bon, Guy Forget, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Et bon, heureusement qu'il est plus capitaine de la Coupe Davis. J'en suis très satisfait. Rien qu'en entendant ses commentaires, il nous gonfle déjà rien que par ses commentaires. Bon, j'ai jamais vu autant de langues de bois personnifiées par Guy Forget. Donc, il vaut mieux pas me parler de Guy Forget, même si quand même il a apporté quand même en Coupe Davis. Il faut quand même lui rendre cet hommage. En Coupe Davis, je veux dire, en tant que joueur, hein, parce que dès qu'il est passé capitaine, c'était plus ça.
Le standard est en train de sonner, c'est la famille de Guy Forget qui appelle.
Ouais, c'est France. Grave, il faut dire que France Télévisions a quelques problèmes de journalistes sportifs. Ça, c'est également mon avis. Mais bon.
C'est pas faux.
Voilà, on les aime bien quand même, Luc.
Par contre, un qui a bien balancé, c'est Stan Wawrinka à la fin du match, qui a bien balancé sur les Français.
Il a dit les Français parlent trop, comme la femme de Federer, c'est ça?
C'est un peu ça, ouais.
D'accord. Ok, bon, on passe au tennis, on change de sport.
On change, donc du coup, on pourrait parler un petit peu des matchs truqués dans le football professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que le fait d'amener quatre cartons de bouteilles de vin à Caen par l'Union Olympique, on peut dire que c'est un match truqué?
Tu sais que si on nous amène quatre bouteilles, nous on fait la promotion de l'équipe.
Nous on est corruptibles.
Alors là, le MGC, pensez-y. Ah, le GMC a perdu, mais quel beau match.
Surtout qu'on va bouillarder.
Parce que Bouillard, c'est pas loin pour le Costia, donc il n'y a pas de souci. C'était 40 cartons, hein. C'est pas 40 bouteilles, c'est 4 bouteilles, c'est 4 cartons, c'est 40 cartons.
40 cartons, on les prend aussi.
40 cartons, on les prend d'autant plus.
Non, mais dans ce milieu de sport professionnel, ça se fait régulièrement d'amener un petit présent à l'équipe adverse.
D'amener un petit présent. Non, mais je pense surtout.
Arrête Laurent. Est-ce que ça t'étonne déjà, Luc? C'est ça la question. Est-ce que ça vous étonne, des matchs truqués en Ligue 2?
Non,
Patrick.
Faut savoir, parce que y compris l'ancien président de Nîmes Olympique visiblement avait oublié cette histoire, mais Jean-Marc Conrad, donc l'ancien président puisqu'il a démissionné de Nîmes Olympique, celui qui est soupçonné de la corruption, avait déjà été impliqué dans une affaire. Il avait été blanchi, certes, mais déjà à l'époque où il était à Arles-Avignon, il avait été soupçonné d'avoir voulu d'être impliqué dans une affaire de Paris ou de match truqué. Est-ce que ça nous étonne? Moi, plus rien ne m'étonne, mais...
Moi, mais ça m'étonne quand même. Ligue 2, je vous avoue,
c'est triste, et surtout, surtout si on en croit les écoutes, c'est grossier. Enfin, c'est pas fin du tout, quoi.
Non, mais tous ceux qui sont dans le monde du football, de près ou de loin, savent, il faut le dire, que quel que soit le niveau, c'est-à-dire au niveau amateur, niveau professionnel, n'importe quelle division, n'importe quelle région en France, n'importe quel pays en Europe ou dans le monde, toujours en fin de saison, ou même bien avant. Alors après, il y a deux termes qu'il faut vraiment dissocier. Il y a arrangement et match truqué. Donc les arrangements, ça a toujours existé. On peut remonter même aux années 50, aux années 40. Même il faut rappeler que le premier championnat professionnel en 1932, il y a Antibes qui participait à ce championnat, et Antibes a été mis hors championnat pour des faits de corruption. Donc on est en 1932, au moment du premier championnat professionnel en France. Donc tu vois que ça a toujours existé.
Les arrangements, c'est pas très très moral, voilà. Mais c'est pas vraiment illégal.
Voilà, donc il y a les arrangements, c'est-à-dire ben là c'était
on fait match nul, personne descend.
Mais voilà. on parle de Caen Nîmes. Bon, Caen il leur faut un point pour monter et Nîmes il leur faut un point pour pas descendre. Mais c'est vrai, mettez-vous à la place des dirigeants, mais il faut être complètement barjot pour s'écharper, alors que un match nul il fait plaisir à tout le monde.
Ce qui était arrivé en Coupe de Monde aussi, il y a pas que dans nos petits championnats.
En Coupe de Monde, le fameux Autriche,
qui avait payé les pots cassés.
Donc ça on peut parler d'un arrangement. Alors sur le plan moral, on peut toujours en discuter. Mais bon, après, il faut se mettre à la place des clubs. Et c'est compliqué de se jeter à corps perdu dans une bataille quand tu sais que match nul arrange les deux équipes.
Alors, après, est-ce qu'on peut parler d'arrangement quand il y a eu un contact entre les deux présidents, qu'il y a cette histoire de caisse de vin qui a été livrée à la mi-temps? Ça a été mentionné sur le rapport du délégué qui a été publié par le Parisien. Est-ce qu'on peut parler d'un simple arrangement entre deux présidents qui se disent « Oh, match nul, ça, tout le monde arrange, on va pas déconner ». Et là, des gens qui s'appellent avec des intermédiaires.
On parle pas que d'un match. On parle Caen, Dijon. On parle.
Et après, il y a beaucoup plus grave. Il y a le niveau supérieur. Bon, avec les matchs truqués, la corruption. L'achat. Mais là aussi, bon, je dois le dire, ça existe à tous les niveaux.
Oui.
Bon, des clubs qui arrivent avec des euros, des centaines, des milliers d'euros, et qui disent ben voilà, c'est pour l'équipe et vous nous laissez gagner.
Les maletas espagnols.
Ça arrive toutes les saisons dans toutes les ligues de France et de Navarre. Il faut le dire.
Les maletas espagnols, c'est un peu différent. C'est comme si Montpellier allait voir Lorient qui joue contre Nice et payait les Lorientais en leur disant si vous gagnez, vous aurez une grosse. Si tu veux.
Une grosse prime.
C'est pas très. Voilà. C'est pas véritablement la corruption. Ça, c'est les maletas en Espagne.
Ah, d'accord.
C'est un système qui existe, qui n'est pas totalement légal.
C'est accepté. Donc, imaginez le problème.
Ça se fait très souvent en fin de saison.
Est-ce qu'on pourrait voir de la corruption mise au devant de la scène en Ligue 1, par exemple, Patrick? Est-ce que tu penses que ça existe?
Oui. Je pense que ça existe. Mais d'ailleurs, ça a existé dans d'autres pays. Et pas si loin que la France, rien qu'en Allemagne.
En France aussi, Patrick, n'est pas la mémoire trop courte.
C'était la préhistoire. Ils enterraient les billets dans le jardin. C'est beaucoup plus sophistiqué. Et il y a même des arbitres qui sont corrompus. Et le plus gros scandale ces dernières années, c'est en Allemagne. Il y a un arbitre d'ailleurs qui a fait de la prison et qui a avoué avoir truqué plusieurs centaines de matchs en première division, deuxième division, troisième division, Coupe d'Allemagne, etc.
Après, ce qui arrive souvent, c'est des matchs truqués par rapport à des paris sportifs. Ce qui fait que des fois, il y a des matchs qui sont annulés, qui sont retirés des listes. Là, ce serait une présumée corruption pour acheter des matchs, carrément. C'est pas des parieurs. Là, c'est un président qui aurait acheté dans un match.
Alors on va suivre un peu l'évolution. Bon, on n'a pas trop le temps, on va vite passer sur deux matchs de Ligue 1.
Ouais, donc là, un match qui n'était pas truqué hier soir au Stade Vélodrome, c'était Marseille-Bordeaux, voilà. Avec un final exceptionnel des Marseillais, 3-1, super match, Patrick.
Oui, match magnifique. Bon, en tant que supporter marseillais, j'étais à la 80e minute, il y avait 1-1. Bon, c'est vrai que ça foutait les boules de pas gagner ce match parce que Carrasco a fait une partie magnifique.
Et surtout que Paris est passé premier. Quoi.
Voilà. Et donc, mais quand même, malgré ça, je me disais même si on fait match nul, c'est pas trop grave parce qu'on voit un match magnifique et ça fait des années, il faut le reconnaître, on s'emmerdait un peu avoir joué Marseille où on voyait pas de jeu et là on voit une équipe qui attaque sans arrêt du la première à la dernière minute, ça fait rêver. Et donc en plus avec ces deux derniers buts dans les 5 dernières minutes, c'était la cerise sur le gâteau et on reprend la première place à Paris, c'est bonheur.
Voilà, Sagnol est dans son jardin en ce moment, dans son potager, il paraît qu'il bêche. Le match du week-end Montpellier-Toulouse pour la suprématie régionale de ces régions qui vont fusionner.
Montpellier a battu Toulouse, mais au niveau politique, c'est Toulouse qui a battu Montpellier puisque la fusion a été entérinée à l'Assemblée nationale. Donc Toulouse sera la capitale régionale. Bon, donc pour la Lozère, il va falloir aller chercher les sous à Toulouse, ça va être compliqué aussi.
Et que pour le stade, vous irez jouer au stade de Castelnau-le-Lez.
C'est cela, oui. Allez, pronostic pour la semaine prochaine, Ligue des Champions, Paris reçoit ou se reçoit l'Ajax d'Amsterdam. Pronostic, Maxime.
Moi, je pronostique une victoire parisienne par 2-0, doublé d'Ibrahimovic.
Très bien. Marie, tu peux dire ce que tu veux.
Moi, victoire de Paris, 2-1.
2-1. Ok, Patrick.
Bon, mais je vais essayer un peu de me démarquer. 3-1 pour Paris.
Ok, Luc.
J'ai essayé de me démarquer. 3-0 pour Paris.
Ok.
0-0.
Allez, 4-0 Paris. Monaco se déplace au Bayer Leverkusen. Match difficile, Maxime.
Défaite monégasque par 2-1.
Ok, Marie. T'as pas le droit de dire un but de ton frère, il joue pas dans ce match. Tu prononces quoi?
Non. Défaite de Monaco 1-0.
Ok.
Un partout.
0-0.
Non, il y aura très certainement 3-0 pour le Bayer Leverkusen.
Allez, très bien.
Et toi, tu dirais.
1-2-1 pour le Bayer. Allez, on pourra réécouter ces pronostics lundi prochain si j'ai raison, comme d'habitude. Si j'ai tort, je les repasse pas. Allez, on finit le rugby qui perd pathétique. Quoi dire, Patrick?
Ouais, quoi dire. C'est vrai que on avait un peu cassé cette équipe de France les émissions précédentes. Bon, il y a eu un sursaut contre l'Australie, contre l'Argentine, on a été bouffé, mais alors dans les rucks, dans les molles,
fait
bon.
C'est toujours, voilà, c'est toujours ça... la même histoire contre l'Argentine.
Ouais. Final, non, mais bon, c'est assez désespérant. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à Marseille, premier match, bon, le stade vraiment pas grand monde, contre l'Australie, le stade de France pas plein, et là contre l'Argentine, le troisième niveau du stade de France même pas ouvert au public, donc même pas 50 000 personnes au stade de France pour voir l'Argentine. C'est quand même assez révélateur. Et bon, c'est vrai que le rugby se fout souvent de la gueule du foot, mais là je pense que le rugby est en train de vivre ce que le foot a connu au niveau de son équipe nationale, et il y a un désintérêt à mon avis du public pour l'équipe de France de rugby, et donc alors qu'on revoit un intérêt pour l'équipe de France de foot. Et donc le rugby, faites attention, parce qu'une fois qu'on descend, c'est compliqué à remonter.
Il y a toujours une frange de supporters qui sont pas vraiment des supporters mais plutôt des spectateurs qui vont de l'un à l'autre. Bah là en ce moment ils sont au foot, peut-être que dans un an pour la Coupe du Monde ils reviendront au rugby.
Il paraît qu'il y a des Marseillais qui sont allés au Vélodrome insulter Digne alors que c'était l'équipe de France de rugby, mais bon, ça c'est notre débat. Voilà. Laurent.
Donc merci à Marie et Maxime pour d'avoir participé à l'émission.
Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous en tout cas pour l'invitation.
Merci à vous.
Voilà,
merci.
Donc cette émission qui sera retransmise mercredi à 18h10 et qui pourra être podcastée sur le site internet 48fm.org.
Dès cet après-midi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous serez au courant, ça sera podcastable.
Voilà, merci à Ludovic, Luc et Patrick d'avoir commenté dans la bonne humeur tous les résultats du week-end, et donc à la semaine prochaine.
Merci, salut.
Au revoir.
Bye bye.
Les Street John au couloir numéro 2. Allez, les Street. C'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit.